Alep, de l'éducation populaire à Blois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du mois de janvier de l'Alep sur Studio Zef. Alors, pour ne rien vous cacher, nous ne sommes pas en direct, on est en décembre encore quand on tourne cette émission. Nous ne sommes pas encore en 2024 puisque quand vous écoutez cette émission pour la première fois, nous sommes le 1er janvier 2024 à 20h, donc vous vous doutez bien que nous ne sommes pas au studio de Studio Zef ce soir. En janvier à l'Alep, on accueille une exposition des peintures de Daniel et Alain Lemarchand qui sont un adhérent et une adhérente de l'Alep depuis plusieurs années. Donc c'est du lundi 8 janvier au jeudi 25 janvier 2024 avec un vernissage qui aura lieu le mercredi 10 janvier à partir de 18h. Et on aura aussi un spectacle de théâtre d'improvisation théâtrale avec les impros locaux qui reçoivent la LAMI de la ville de Mons. Et c'est le 20 janvier à 20h30 qu'on retrouve les impros locaux et leurs adversaires. Ce soir, au micro de Studio Zef, on accueille la directrice de l'Alep, Virginie. Bonjour Virginie, bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Et l'équipe au complet des salariés de Culture du Cœur. Bonsoir Lauriane.
Bonsoir.
Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Bienvenue chez Studio Zef et merci d'être là. On a eu envie de vous inviter pour le mois de janvier parce que on travaille ensemble, on fait des choses, vous faites des choses, pas mal de choses. Donc on s'est dit, et si on en parlait avec vous ?
D'autant plus que Culture du Cœur est sur le même quartier que l'Alep, c'est-à-dire le quartier ouest, installé à Dorgelès, donc on est juste à côté, la porte à côté, donc c'est un partenaire privilégié avec nous.
C'est ça.
Donc on va parler un petit peu de Culture du Cœur.
Allons-y.
Dans cette émission. Alors moi je m'interroge parce que j'ai pas été chercher l'histoire de Culture du Cœur en fait. D'où ça vient l'idée ? Parce que ça fait penser à Resto du Cœur, Culture du Cœur. Est-ce que ça a un lien ? Pas du tout.
Pas du tout. On n'a pas le privilège du cœur et ils ne l'ont pas non plus, mais on partage cette même idée de solidarité, mais il n'y a aucune coordination entre les deux fédérations. On n'est même pas structuré de la même manière, parce que les Restos du Cœur, c'est vraiment une association nationale, une fédération. Culture du Cœur, c'est un réseau informel de plusieurs territoires, donc d'associations différentes sur le territoire. Il existe 32 antennes territoriales et une antenne à Paris qui fait de la coordination informelle, donc pour nous aider à se renseigner sur ce qu'il fait sur les autres territoires, etc. Et puis, parce qu'ils sont aussi qualifiés pour faire de la formation professionnelle. Et donc, Culture du Cœur National dispense une formation certifiante sur la médiation culturelle.
D'accord.
Voilà, et sinon, pour revenir à l'histoire, le début de ta question, Virginie, sur l'histoire de Culture du Cœur. Culture du Cœur est née en 1998, de la part d'un salarié de la NPE Spectacle à cette époque, qui constatait que les personnes qu'ils accompagnaient, souvent intermittents du spectacle, ou en tout cas plus ou moins dans cette dynamique-là, étaient eux-mêmes en grande difficulté pour accéder à d'autres spectacles et nourrir leur pratique, leur imaginaire, etc. Et en parallèle, quand lui, il avait la chance de pouvoir sortir, il se rendait compte qu'il y avait pas mal de places qui étaient libres à côté de lui dans certaines salles. Et donc, il a fait le lien en se disant, plutôt que les sièges restent vides, faisons en sorte que ceux que moi j'accompagne au quotidien puissent venir et tout le monde sera content. La salle sera pleine et puis les personnes en difficulté auront eu accès à des propositions culturelles. Donc voilà, c'est né de ça. Ça a été beaucoup transformé et maintenant, au-delà de simplement un public de techniciens ou d'artistes. Culture du Cœur, c'est un outil d'accès à la culture. Et quand je dis culture, c'est au sens large du terme. On y reviendra peut-être, mais au sens éducation populaire ou au sens déclaration de Fribourg, c'est-à-dire les ressources culturelles, tout ce qui fait qu'on va pouvoir se construire soi-même et se construire en société. Et donc, Culture du Cœur, c'est l'accès à la culture pour tous et toutes.
D'accord. Okay, c'est permettre à des gens qui n'y ont pas accès par faute de moyens financiers ou parce qu'ils n'osent pas, ils ne s'autorisent pas à aller.
C'est permettre aux gens d'aller vers les ressources culturelles de leur territoire. pour des questions, parce qu'ils n'y vont pas pour des questions financières, mais bien au-delà. Et d'ailleurs, c'est la force de Culture du Cœur, c'est qu'on lève ce frein financier et du coup, on peut aller questionner les autres freins qui sont beaucoup plus ancrés, beaucoup plus profonds et une fois travaillés et levés, sont beaucoup plus... remettre une personne dans une dynamique générale beaucoup plus productive et ouverte sur les autres en termes de citoyens et même de construction de soi.
Et du coup, est-ce qu'il y a, enfin j'imagine qu'il y a, parce que tu parles au niveau des droits culturels et de sa propre identité et de sa propre culture, est-ce que vous avez des idées de projets, de propositions qui ont été faites au niveau national ou sur différents territoires autour de la culture de toutes les personnes qui étaient touchées par Culture du Cœur? Est-ce qu'il y a des exemples ou pas?
Tu veux dire un projet qui aurait rassemblé différents publics des Cultures du Cœur? Alors, on travaille beaucoup départementalement parlant, donc on ne va pas croiser forcément les publics des autres départements, même si nous, en région centre, on essaye d'être connectés à nos collègues du 37 et du 45. Mais c'est vrai que déjà, couvrir un département avec, comme tu le disais, Mélanie, une équipe de deux au complet, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de faire les choses bien sur notre territoire avant d'aller chercher à aller ailleurs. Par contre, dans certains projets collectifs que nous, on mène, et je parlerai mieux des projets Culture du Cœur 41 que de ceux de mes collègues, mais on est quand même assez nombreux à le faire. Dans les projets collectifs qu'on mène, on essaye le plus possible de mixer et de croiser les publics qui sont touchés par les invitations Culture du Cœur. Voilà.
Et alors, je me permets là, parce que je connais un petit peu Culture du Cœur, mais je crois que c'est à peu près 10 ans d'ancienneté, un petit peu plus sur le département.
Même 15.
Ah, même 15, ouais. Ok. D'accord. Et j'ai connu un peu les membres qui composent, parce que vous êtes les deux salariés, mais c'est une association, donc c'est composé aussi d'administrateurs et d'administratrices et de bénévoles. Cette association a été composée de nombreuses personnalités blésoises. Je pense notamment, et là c'est une pensée pour elle, je pense notamment à Annick Villenfin qui a participé au développement de Culture du Cœur et puis plein d'autres. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Malherbe qui est président et puis on a tout un tas de personnalités comme ça. Isabelle Scarpita aussi qui a été directrice du BIJ. Donc voilà, c'est investi localement par des gens qui ont une fibre culturelle, qui ont une fibre sociale, on est d'accord ?
Tout à fait.
Oui. est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets, parce que avant toi, Lauriane, il y a eu d'autres personnes, avant toi, Léa, il y a eu d'autres personnes, je pense notamment, et là je fais un coucou à Mélanie, Mélanie qui fait partie de nos adhérentes, puisqu'elle a participé pendant de nombreuses années aux impros locaux. Je sais qu'elle a été à l'origine avec Coralie, qui est aussi adhérente de l'ALEP, donc coucou Coralie, autour de Culturel, ça a vécu pendant 10 ans. Aujourd'hui, il y a des nouvelles choses. Vous pouvez nous en parler ?
Aujourd'hui, du coup, on a une fabrique culturelle et citoyenne qui se passe sur le quartier Quignard actuellement. Donc, la fabrique culturelle et citoyenne, c'est un groupe d'habitants qui se regroupe régulièrement, en tout cas pour échanger sur quelles sont leurs envies, en tout cas en termes d'accès à la culture, au sport et aux loisirs. C'est un lieu de partage, de sociabilisation, de création de liens. Et du coup, on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre territoire. Donc régulièrement, on organise des sorties. Ça leur a permis de pouvoir accéder, d'aller à Chambord, d'aller à Chaumont-sur-Loire ou d'aller faire des visites sur la Loire. Ils ont participé cet été au programme de Quignard's Décale, où du coup ils ont mené de A à Z tout un projet pour réaliser une fresque en tissu sur l'école Molière. Donc c'est les habitants qui ont préparé l'atelier et qui l'ont animé après avec notre soutien logistique. Et l'idée, c'est de leur redonner de l'élan, en tout cas, pour qu'après ils puissent y aller sans nous ou mener des projets sans nous. La fabrique culturelle et citoyenne, c'est quelque chose aussi qu'on va essayer de développer sur d'autres territoires, dans les quartiers nord et puis un peu plus tard sur le reste du département. N'hésite pas, Lauriane.
Non, mais c'est très bien parce que tu parles du projet dont on est le plus proche géographiquement parlant, oui. Puisque tu parles d'un projet dans le quartier Quinière. Mais il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres, des projets Culture du Cœur, des projets collectifs. Mais si on peut les qualifier, c'est vrai que dans cette mission de projet collectif de Culture du Cœur, on a à cœur, et désolé pour la redondance, de mettre vraiment le participant, l'habitant, le citoyen au cœur du projet et de le mettre dans une dynamique active, enfin vraiment de, voilà, de mettre sa voix et sa personnalité au cœur du projet de manière à ce qu'il soit le plus investi dans les différents choix aux différents moments des mises en œuvre de projet.
Et du coup, la fabrique culturelle et citoyenne, je trouve ça assez joli hein, comme concept. Ça vient d'où ? C'est national, enfin, c'est culture du cœur ensemble, c'est une politique qui est développée par une collectivité. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fabrique culturelle et citoyenne ?
Oui, c'est national. Enfin, c'est national. C'est le national qui a essayé donc, de faire une fabrique. C'est devenu un label, si je me trompe pas.
Oui, c'est même pas tant qu'ils ont essayé de faire le projet, c'est que le national a coordonné les territoires pour penser le projet. Et ensuite, certains se sont saisis de ce projet-là.
Donc, le terme fabrique culturelle et citoyenne, ça sort du giron de culture du cœur, des différents cultures du cœur, c'est ça, des acteurs de culture.
Non, c'est quand même un label culture du cœur.
Oui, c'est ça.
Ouais, oui, c'est vrai, c'est voilà.
Et ça n'existe pas dans tous les départements.
Exactement. C'est comme si on proposait un projet et puis certains s'en saisissent ou se rattachent ou ne se rattachent pas. Alors il y a des départements où il y a des fabriques culturelles sans que ça s'appelle fabrique culturelle parce qu'en fait ils étaient déjà dans des mouvements participatifs avec les habitants et qu'ils n'avaient pas décidé de prendre ce nom-là ou alors la fabrique a existé après. Et puis il y a des départements où ça s'appelle comme ça. Et même dans différents départements où il y a des fabriques culturelles, elles ont des fois des formes aussi un peu différente à partir de ça dépend de où elle est implantée, des partenaires qui sont actifs ou pas à l'intérieur, comment elles sont pensées. Tous nos projets sont pensés et réajustés en fonction de nos territoires et c'est ce que permet la grande indépendance qu'on a au sein du réseau, quoi.
Justement, vous parlez de partenaires, les partenaires c'est très très large puisque comment vous mettez en lien pour que les gens puissent avoir accès à des spectacles, etc. Vous pouvez expliquer ?
On va chercher donc des conventionnements avec des partenaires culturels qui vont du coup permettre, enfin qui vont offrir des places gratuites que nous après on remet à disposition sur un portail solidaire et ces places-là après bénéficient. C'est les travailleurs sociaux qui sont adhérents à l'association Culture du Cœur qui peuvent faire bénéficier de ces places-là aux personnes qu'ils accompagnent. C'est vraiment vu comme un outil pour le travailleur social dans son accompagnement au quotidien, en tout cas avec les personnes.
Donc voilà. Ça veut dire que vous avez une palette de partenaires très très large, j'imagine, et sur Blois notamment, vous avez tous les lieux culturels.
Sur Blois et au plus large sur tout le département, on est autour de 70-80 partenaires culturels, sportifs et de loisirs et quasiment autant en tout cas en structures sociales qui sont adhérentes.
D'accord. Et donc là, on peut faire appel s'il y en a qui sont des structures qui sont intéressées, qui ne sont pas encore soit adhérents, soit partenaires sur la plateforme, peuvent vous contacter pour devenir partenaire de Culture du Cœur.
On peut tout à fait faire appel en ce 1er janvier 2024, qu'on n'est pas réellement quand on enregistre, mais qu'on est réellement quand vous allez écouter, parce que les adhésions Culture du Cœur, elles sont à l'année civile. Donc c'est le top départ de la campagne d'adhésion Culture du Cœur 2024. Donc effectivement, c'est le moment de se signaler auprès de nous, et vous retrouverez nos coordonnées, j'imagine, sur le podcast Studio Zef, mais vous les retrouvez aussi sans difficulté sur Internet pour vous mettre en lien avec nous, effectivement.
Et c'est aussi peut-être l'occasion, parce que quand vous offrez des places, j'imagine, ou peut-être pas tout le temps, mais vous accompagnez les groupes, les personnes aux spectacles, aux activités, etc. Comment ça se passe ?
Alors, nous, on ne les accompagne pas directement. Ça se passe vraiment entre les travailleurs sociaux ou en tout cas les professionnels qui accompagnent ces personnes-là. Donc, soit les personnes peuvent y aller de manière autonome ou avec un ami ou en famille, en fait, ou alors avec, en groupe avec un travailleur du champ social. Et nous, finalement, on va accompagner les personnes seulement dans le cadre de projets comme la Fabrique culturelle et citoyenne, où on a un autre projet actuellement qui s'appelle le Culturoscope, où du coup c'est des différents adhérents de Culture du Cœur qui vont venir faire des petits reportages vidéo sur des partenaires culturels de notre réseau pour à la fois les présenter et puis eux leur faire découvrir les méthodes de reportage, d'interview et de prise d'image. Et là, dans ces cas-là, on est présent. Mais sinon, ce qu'on propose sur la billetterie, nous, on n'est pas présent lors des sorties.
D'accord, mais vous êtes une association avec des salariés, bien sûr, mais il y a aussi besoin de bénévoles. Et à quel moment des bénévoles peuvent intervenir ?
C'est compliqué d'avoir des bénévoles à Culture du Cœur, parce que c'est compliqué de donner une mission à un bénévole à Culture du Cœur. Les bénévoles sont les bienvenus, évidemment, et d'autant plus peut-être dans le conseil d'administration, où là, on n'est jamais trop de voix et de parcours pour penser l'accompagnement culturel et solidaire sur le département. Mais en tant que bénévole au sens large du terme et celui qu'on met en grand public, de donner un coup de main logistique, en fait, il y en a assez peu. Vraiment, le cœur de notre boulot, nous, c'est de faire une passerelle entre des professionnels du champ social et des professionnels du champ culturel. On ne va pas pouvoir donner cette mission-là à des bénévoles. Et puis, sur des projets collectifs, comme ils sont très ponctuels, c'est vrai que c'est difficile de donner une mission. Voilà, ce n'est pas comme quand on fait de l'aide aux devoirs. On sait qu'on doit se rendre disponible en tant que bénévole tous les lundis de 17 à 18 heures. Là, nous, comme c'est vraiment fluctuant, c'est assez difficile. Après, on ne désespère pas de nous trouver du temps pour pouvoir former un groupe de bénévoles et pourquoi pas un groupe de bénévoles qui puissent accompagner les bénéficiaires Culture du Cœur, à défaut d'avoir un professionnel derrière, parce que comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on a levé le frein financier, il est loin d'être le seul dans l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Et donc peut-être que d'avoir un bénévole de confiance qui serait un accompagnateur et qui aiderait à franchir certaines barrières de légitimité, etc., ça pourrait être un plus dans le réseau, voire des bénévoles qui pourraient régler le problème, ou en tout cas aider à régler le problème de mobilité qui est un fort frein révélé dans tout le département.
Donc il y a bien appel à bénévoles.
Dans ce 1er
oui,
janvier.
Mais également. D'un autre côté, pour l'instant, on n'a pas les moyens humains et ressources humaines pour gérer ce groupe de bénévoles qui pourrait exister. Alors, on prend toutes les ânes charitables et tous ceux qui auraient envie de donner un coup de main à Culture du Cœur. Certes, on ne va pas fermer la porte, mais c'est vrai qu'un afflux de bénévoles demain, on ne saura pas le gérer. Il faut être honnête aussi avec ça.
Après, on peut toujours faire appel à un ou une bénévole oui. chevronnée en capacité de constituer un petit groupe de bénévoles.
Ah, ça, c'est tout possible. À fait. Voilà. Super. Bénévole, oui. Un bénévole en chef, une bénévole en chef.
Je suis sûre et on fait cet appel.
On prend volontiers, effectivement, Virginie.
Du coup, j'ai envie de revenir sur. Donc, ça fait peu de temps que vous êtes à Culture du Cœur, hein, toutes les deux. De revenir un peu sur votre parcours et pourquoi vous êtes arrivées à Culture du Cœur, d'où vous venez. Parce que ce n'est pas anodin, on ne se retrouve pas dans une association par hasard, de mon point de vue. Donc, je commencerai par Léa, savoir d'où tu viens. Et puis là où tu es arrivée, comment ça se passe?
Ok. Du coup, d'où je viens? Je viens de Poitiers. Non, j'ai fait des études en licence d'art plastique à Bordeaux. Parce que je suis passionnée par l'art, la culture, le processus créatif. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, en parallèle, que j'étais aussi passionnée par le social. Je faisais des maraudes à la Croix-Rouge en parallèle. Et puis très vite, ça a pris le dessus. Donc du coup, j'ai passé le diplôme d'éducatrice spécialisée et que j'ai obtenu. Et donc du coup, après, j'ai fait, à travers mes différentes expériences à la fois de stage et professionnel, j'essayais toujours de faire du lien entre l'art et le social. Où je montais des projets en fait tout simplement pour les amener vers du spectacle vivant ou vers de la pratique artistique. Et j'ai toujours estimé que c'était un bon outil en tout cas pour les accompagner. Mais j'avais l'impression parfois, pas tout le temps, mais dans certaines équipes, d'être un peu seule à avoir cette vision-là. Et on a pu des fois me renvoyer le fait de « c'est ton monde en fait ». Sauf que je pars du principe que c'est le monde de tout le monde, on est dans le même. Et je trouve que Culture du Cœur, finalement, c'est un peu ce lien qu'il y a entre les deux. Et il y a aussi, Culture du Cœur, toute une partie où on fait de la sensibilisation auprès des professionnels. Et ça permet aussi de répondre à, justement, cette question de « c'est ton monde ?» Finalement, ça permet d'ouvrir, en tout cas, de présenter d'autres manières d'accompagner les personnes à travers la culture. Voilà.
T'as trouvé vraiment l'association qui mariait les deux choses que tu voulais faire professionnellement, c'est incroyable.
Oui, ouais, c'est assez fou. Culture du Cœur, je l'ai découvert dans le 37 quand j'étais en stage, où j'étais en stage en SAVS et ils utilisaient déjà beaucoup ce que proposait Culture du Cœur. Donc oui, ça se marie bien en tout cas.
Et toi, Lauriane, tu as aussi un parcours atypique?
Oui, on en a tous, non? Je ne sais pas. À moins qu'il y ait des gens, ça déroule comme ça si facilement. Mais je ne crois pas trop, justement, dans les petites associations ou dans les milieux dans lesquels on est, que ça existe vraiment. Moi, je suis à Culture du Cœur depuis 3 ans. D'abord sur le poste de chargée de projet qu'occupe maintenant Léa et maintenant sur le poste de coordination depuis 1 an. Et avant d'être à Culture du Cœur, j'étais en librairie. Je défendais l'accès aux livres et je partageais avec plaisir mes coups de cœur en librairie. Mais je ne m'y retrouvais plus dans le sens où je sentais bien que la relation clientèle que moi j'aimais dans le partage, elle se détériorait et elle se limitait à une relation marchande. Et je ne sais pas vendre, je ne suis pas une bonne vendeuse, en tout cas ce n'est pas ce qui me fait vibrer moi. Et donc, j'ai entamé un petit processus de reconversion professionnelle et dans mon bilan de compétences, ça a été assez flagrant que j'avais besoin de revenir à mes premiers amours, en l'occurrence la culture. Et je viens d'un autre parcours culturel que Léa, pas en art mais moi en théâtre, donc je suis revenue un peu vers la culture avec une vraie volonté de la partager et de la rendre accessible à tout le monde. Et ça, je sais pas trop d'où ça vient, si ce n'est que ça vient d'une éducation, des habitudes de vie, d'un parcours de vie. Voilà. Et effectivement, comme tu l'as dit, Mélanie, pour Léa, j'ai trouvé l'endroit où tout ça se mettait en vibration et où on se sent utile au quotidien dans les missions qu'on mène à sa culture du cœur.
Tu as parlé de théâtre, ça m'a... ça veut dire que tu étais comédienne ou...
Vouée à l'être, après j'ai jamais été comédienne professionnelle, mais en tout cas oui, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique à Tours.
D'accord, ok.
Est-ce que tu fais encore du théâtre?
Non plus. Non. Non.
Mais t'as pas essayé avec le public?
Non. Parce que je me sens pas légitime là-dedans et parce que faire du théâtre et apprendre à faire du théâtre, ce sont deux métiers différents. Après c'est ma petite tambouille perso, c'est mon petit histoire. Effectivement, j'ai du mal à renouer avec le théâtre parce que peut-être je l'ai vécu comme un échec d'abandonner cette filière là et que c'est encore pas serein d'y repenser.
avant de parler de ce qu'on fait, nous, Alep, comment on travaille avec vous. On va faire une petite pause musicale. On va écouter, alors désolé pour mon accent, comme d'habitude évidemment, Take Your Praise de Camille Yarbrough. Je suis pas sûre de la prononciation, mais on écoute.
On écoute. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure I'm glad you're mine. I have to praise you when you hold. When you work your way around, ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make Pour résumer, Léa, peut-être, ou Lauriane, je ne sais pas, vous pouvez expliquer en synthétisant l'émission de Culture du Cœur.
Oui, alors du coup, Culture du Cœur, c'est vraiment donc, de l'accès à la culture, au sport et aux loisirs dans un but d'insertion sociale. Pour y répondre, on a vraiment, en résumé, donc, trois grandes missions. On a la première, on a un portail solidaire où là, les personnes... les adhérents de Culture du Cœur qui sont des structures du champ social et médico-social peuvent bénéficier de places gratuites pour ensuite les utiliser auprès de leur public et, les, et pouvoir s'en servir d'outils dans leur accompagnement au quotidien, enfin de se servir de la culture en tout cas pour accompagner. Et donc ça, c'est vraiment notre première mission donc qui se passe sur le portail solidaire. La deuxième mission, c'est vraiment de l'animation de réseau et de la sensibilisation des professionnels, où là, on va organiser des tables rondes où on va rassembler les différents professionnels du champ social et médico-social, où on va parler de divers sujets. La dernière, on a parlé de l'accès au spectacle vivant, enfin comment amener leur public vers le spectacle vivant. Ça leur permet aussi de faire des partages d'expériences avec leur public. Et puis on a on est présent sur différents forums. On peut proposer de la formation. Cette année, on a eu une formation sur les jeux vidéo et le lien social, et des conférences qu'on parlera peut-être plus tout à l'heure.
On peut faire l'appel maintenant tout de suite.
Vas-y.
le 25 janvier au matin, pour bien démarrer l'année Culture du Cœur, on propose à ceux qui font notre réseau, mais au-delà, ceux qui travaillent auprès de personnes accompagnées et ceux qui travaillent dans le domaine de la culture ou du sport au niveau du département, de nous rejoindre sur une conférence participative qui aura lieu donc le 25 sur la matinée à l'hôtel du département, animée par une intervenante de l'UFISC sur la notion des droits culturels. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là, qui n'est pas très facile à définir, et qu'est-ce qu'on en fait dans nos pratiques du quotidien en tant que professionnel du champ de la culture ou professionnel du champ du social. Voilà la thématique de cette matinée sur les droits culturels. Le 25 janvier, vous pouvez vous inscrire en nous envoyant un petit mail ou en laissant un message sur le répondeur de Culture du Cœur.
Merci.
Désolée.
Non, c'est ok. Et voilà. Et on peut venir aussi animer donc dans les équipes, mais aussi auprès du public. On a un jeu de loi qui s'appelle Ce soir je sors, où en fait ce jeu de loi a été revisité, où on a tous nos partenaires culturels, sportifs et de loisirs. Et ce jeu est un prétexte à la discussion et à la découverte en tout cas de son territoire. Donc quand j'entends territoire, c'est vraiment tout le département du Loir-et-Cher. Et il peut aussi bien se jouer en équipe, parce qu'on ne connaît pas forcément tout ce qui existe sur le territoire et que si on ne connaît pas, on ne peut pas forcément accompagner les personnes, en tout cas, à y aller. Mais on peut aussi tout aussi bien l'animer auprès des publics et le prêter, si eux-mêmes veulent l'animer. Voilà. Et puis après, donc, du coup, on a une troisième mission qui sont plutôt donc, des projets. Et là, c'est très, très large. Les projets, ça part d'un besoin d'un territoire, d'un partenaire où on va monter des projets co-construits comme la Fabrique culturelle ou si vous avez entendu déjà parler de Culture Hall.
Voilà. Ça peut être, oui, les projets co-construits, c'est comment on aide un partenaire ou un territoire qui a identifié un besoin de répondre à ce besoin en faisant une passerelle entre la culture et le social. Et ça peut être de juste ouvrir notre répertoire et mettre les bonnes personnes en relation. Répertoire qui est quand même conséquent, quoi, parce que comme tu disais Virginie, du coup, de chaque côté de l'échiquier, il y a quand même pas mal de monde, jusqu'à, comme Cultural, co-porter la demande de subvention, la logistique et l'organisation de l'événement, quoi.
Je voudrais revenir, Lauriane, tout à l'heure tu as parlé de la conférence sur les droits culturels et tu as parlé de l'organisme qui mettait à disposition la conférencière. Je n'ai pas bien compris.
UFISC.
Et c'est...
Alors par contre, ce n'est pas sympa de me demander parce que c'est tellement très long que je ne me souviens jamais. C'est l'Union fédérale d'intervention en structure culturelle. Et tu as retrouvé en plus, bravo. Je crois que c'est ça. Okay. J'espère à l'UFISC s'ils nous entendent que je ne me suis pas trompée, mais ça doit être pas loin d'être ça.
D'accord, mais je ne connaissais pas, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Et du coup, vous parliez de tous les partenaires et de co-construire des projets sur les territoires. Vous avez donc la ville de Blois, enfin en tout cas les acteurs de la ville de Blois qui sont partenaires, mais vous pouvez nous parler d'autres territoires sur le département avec lesquels vous travaillez ?
Oui.
On essaye de travailler partout. Après, ouais, c'est beaucoup plus facile dans les grandes villes qu'au milieu rural, où malheureusement, peut-être, nous, on a un vrai boulot à faire, là.
Tu veux peut-être les parler des projets menés à Romorantin, ou en tout cas les partenariats à Romorantin et à Vendôme.
On a fait des projets ponctuels, donc du coup à Vendôme et à Romorantin. On a fait un projet à Romo autour de la sensibilisation de la gestion des déchets. C'était un besoin qui émanait de différents partenaires, en tout cas sur le territoire. Donc on a travaillé avec les bailleurs sociaux, avec Terre de Loire Habitat, avec le service jeunesse, les adultes relais, l'école, la crèche. Il y a différentes structures sociales aussi qui sont venues. Il y a le Sage de Célette qui est venu. Il y a Zigan 41 qui est venu sur le projet aussi. J'ai peur d'en oublier.
Moi, je crois que tu as fait le tour.
Il y a Actifav, l'association Actifav à Romorantin, qui était aussi présente et impliquée dans le projet. Il y a vraiment un gros maillage, en tout cas, entre tous les partenaires pour mener ce projet à bout.
En tout cas, l'ADN de nos projets collectifs, c'est, comme je disais tout à l'heure, de mettre les habitants et les citoyens au cœur du projet, mais c'est aussi de faire avec les forces en présence sur le territoire. C'est Culture du cœur, c'est pas une asso, en fait. Culture du cœur, c'est un réseau et c'est une manière de travailler en réseau qui est inhérente à nos actions. Et c'est vrai pour le travail de billetterie solidaire, mais c'est particulièrement vrai aussi quand on mène des projets collectifs ou co-construits. On va sur les territoires, on identifie, et en général on les connaît déjà pas mal puisqu'on a 15 ans d'existence, les partenaires du territoire, et on essaye de mettre en commun les forces et les publics de chacun pour aller le plus en profondeur possible sur les projets, quoi. Et c'est vrai à Romorantin comme tu viens de le détailler, c'est vrai à Vendôme où on fait ce même travail, c'est vrai à Blois et à différents endroits de Blois. Voilà.
Du coup, je me permets, puisqu'on fait appel aux bénévoles, on fait appel aux partenaires, on peut peut-être faire appel à des financeurs potentiels, parce que ces deux personnes ne font le département de long en large, je ne sais pas combien de kilomètres, c'est plus de 60 kilomètres
de largeur, je ne sais pas.
Je ne sais pas exactement, enfin bref, on ira chercher ou vous irez chercher, vous direz.
La superficie.
Voilà, donc n'hésitez pas, parce qu'il y a besoin d'investissement et d'une voiture, et voilà, donc c'est beaucoup de temps qui est proposé, en tout cas, sur ces projets. Et c'est beaucoup d'énergie. Voilà.
Merci, Virginie. Oui, puis c'est une volonté aussi de savoir que tout ça, ça peut durer. C'est ce qui peut être un peu frustrant, des fois, dans l'action associative, à la fois pour nous, mais surtout pour nos partenaires et les publics. C'est de se dire, il faut que ça tienne, quoi.
C'est ça.
Oui, et puis avoir une sécurité financière aussi, ça nous permet d'être encore plus d'être sur le terrain et de faire plus de projets et d'être auprès des personnes.
Sûr. Et on peut revenir sur la conférence des droits culturels. Alors, on ne va pas faire la conférence là, enfin tu ne vas pas faire la conférence là, Lauriane, mais tu peux nous expliquer très rapidement qu'est ce terme droits culturels.
Effectivement, je ne vais pas faire la conférence, je peux former pour, même si... C'est une notion qui traverse nos activités, on est un peu sensibilisés, nous. Les droits culturels, ça fait référence à la déclaration de Fribourg de 2007, mais les travaux avaient été amorcés avant. Et les droits culturels, c'est en fait un droit universel de l'être humain qui est absolument transversal à tous les autres droits universels qui sont dans la déclaration des droits universels. Voilà, c'est à quel endroit tous les autres droits se croisent, et ben ils se croisent dans les droits culturels. Et les droits culturels, en gros, ça veut dire que on donne le droit et on doit pouvoir faire en sorte que chacun doit avoir accès aux ressources culturelles et doit pouvoir y participer tout au long de sa vie. Ça fait beaucoup dit comme ça. Mais voilà, ça veut dire d'où je viens, est-ce que j'ai bien accès aux ressources culturelles de ce que veut dire mon origine. Et quand je dis origine, je parle pas forcément d'origine ethnique, hein, ni culturelle, je parle de qui je suis moi dans une société, dans ma famille, etc. Et donc ça se définit à la fois par les tableaux qu'on a vus, les grandes œuvres qui nous ont fait vibrer, mais ça se définit aussi par notre manière de se nourrir, ça se définit aussi par notre manière de parler avec les autres. Donc ressources culturelles, derrière il y a quand même beaucoup de choses, et comment je peux me définir par rapport à ça, comment je peux m'appuyer sur ces ressources culturelles pour me construire moi, et comment j'ai le droit de pouvoir continuer à les faire évoluer moi individuellement. Mais là, on peut faire un parallèle avec l'éducation populaire et tu le feras bien mieux que moi, Virginie, mais où chacun a sa place dans la définition des ressources culturelles.
On est autour de la question de l'identité de chacun, ou plutôt la multi-identité de chacun, et que à travers ces droits culturels, il y a une volonté de reconnaissance, d'inter-reconnaissance des personnes.
Oui, oui. Et puis dans les droits culturels, il y a une notion, il y a le mot communauté qui revient beaucoup. Alors c'est un mot qu'on a un peu galvaudé parce qu'en ce moment on parle de communautarisme. En fait, communauté, c'est pas un gros mot, c'est pas moche, c'est comment on appartient à une communauté. Et dans les droits culturels, il y a aussi la reconnaissance de pouvoir appartenir à plusieurs communautés en même temps et ou pouvoir en changer aussi. C'est-à-dire comment on n'est pas enfermé dans une étiquette à la naissance ou parce que telle catégorie sociale, etc.
Ce que je comprends, c'est qu'à travers le terme droit culturel, c'est aussi de permettre de dépasser ce qu'on appelle les stéréotypes, les préjugés. Il y a aussi cette...
Évidemment. Oui, oui.
Alors, comment on travaille ensemble, nous, Alep et Culture du Cœur ?
Super bien.
Ce comment-là, super bien. De quelle manière, après, je vais donner un exemple qui s'est passé à l'heure où vous écoutez l'émission, mais qui ne s'est pas encore passé à l'heure où on l'enregistre, c'est que nous, avec Le Carillon, parce qu'à l'Alep, on est à la fois association donnons des places de spectacle et des places pour des activités, et à la fois association qui recevons avec notre public du Carillon. Et donc là, la semaine entre Noël et le Nouvel An, on va faire, plusieurs sorties culturelles grâce aux places de Culture du Cœur avec notre public, qui sont les gens qui connaissent ou qui ont connu la vie à la rue. Et donc on est allé au château de Blois, au muséum d'histoire naturelle et à la maison de la magie. Voilà, il y a une. On est parti bien sûr du désir des personnes qui avaient envie, surtout cette semaine-là où quand on est seul, la solitude se fait encore plus ressentir entre pendant les fêtes de fin d'année ou quand on n'a pas beaucoup de proches, quand on n'est pas forcément au chaud, on le ressent encore plus. Et où en plus il y a quand même beaucoup de structures qui sont fermées. On a décidé nous d'aller en sortie, de passer du temps avec les gens. Merci à Culture du Cœur et merci aux structures, au château, au musée et à la Maison de la Magie d'offrir ces places-là parce que c'est essentiel pour les gens.
D'autant plus que c'est des lieux qui sont en plein dans le centre-ville de oui, Blois, que les gens qui sont sans abri, la plupart du temps, tournent autour de ces lieux.
C'est ça, c'est leur lieu de vie.
Mais ne rentrent jamais à l'intérieur.
C'est ça, ça peut faire peur, parce que c'est des lieux de prestige quand même. C'est super important, et merci pour ça.
Mais de rien, et t'as bien fait de l'expliquer, c'est la traduction par l'exemple de l'outil Culture du Cœur.
Et d'ailleurs, je fais un parallèle entre Culture du Cœur et Le Carillon, parce que nous, on est franchise sociale du Carillon depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et c'est aussi merci à tous les commerces qui mettent à disposition des gens, des bons pour aller prendre un repas gratuitement, faire une coupe de cheveux, prendre un café. Peut-être, j'allais dire la culture au sens large, mais en tout cas, c'est du plus pour les gens. Vous offrez, par l'intermédiaire de vos partenaires, des spectacles, des places de tout genre du culturel. Et nous, on offre autre chose par l'intermédiaire des commerces, mais tout ça, c'est toujours à destination des gens qui ont besoin.
C'est aussi... Mais je pense dans le cadre de Culture du Cœur aussi, c'est vraiment aussi le lien avec l'ensemble de la société. Enfin, je reprends plus le Carillon, puisque voilà, c'est l'ALEP qui participe au Carillon, mais c'est vraiment là, par exemple, alors ça a eu lieu, mais je ne peux pas vous dire comment ça a eu lieu, puisque ça n'a pas encore eu lieu. La soupe impopulaire, qui est un concept qui a été créé par le Carillon national, hein, où l'idée, c'est que les gens fabriquent une soupe et le distribuent au tout venant, aux habitants et habitantes, là, en l'occurrence de la ville de Blois. Donc on inverse les rôles, on se positionne différemment, et je pense que là, quelque part, on est aussi dans les droits culturels. On va véhiculer sa propre histoire et sa propre identité à d'autres, et faire en sorte que l'autre accepte qui je suis. Voilà, donc il y a un réel échange à travers cette soupe impopulaire. On fait tomber les murs des stéréotypes et des... Alors ça ne va pas régler tous les problèmes du monde, on est bien d'accord. Hein, ceci dit, voilà, ils sont placés au même titre que les marchands et les marchandes du marché. Et on propose, donc j'espère que vous avez pu bénéficier des super bonnes soupes et des super bons cakes qui est sous couvert de Bastien, qui est un chef cuisinier qui a accompagné les personnes à la rue, à la fabrication. Mmh.
Et à chaque fois, c'est vraiment des super moments de partage. C'est super important pour les gens de cuisiner pour les autres, pour des gens qui sont pourtant pas tous en difficulté. Voilà, et juste les gens qui se promènent sur le marché, parce qu'on fait ça le 23 décembre, donc qui le lendemain soir vont fêter Noël en famille pour la plupart, j'espère pour eux. Et ben voilà, et ils se sont fait offrir des soupes voilà, fabriquées par des gens qui peut-être ils les croiseront dehors le lendemain. Donc c'est aussi un message pour dire soyez attentifs et attentives aux gens, regardez les gens qui sont là à faire la manche, ou voilà, parce que c'est des coups de main de filet voilà, par toutes et tous.
Je reprendrai juste, je le dis à chaque émission où je viens, mais pour moi c'est important et c'est fondamental, c'est Thomas, un jeune homme hein, qui a été à la rue et qui y est encore en ce moment, je crois, et qui disait juste, dites-nous bonjour.
C'est pas tant les sous quand on fait la manche.
C'est juste compte. Au moins bonjour, c'est-à-dire un signe de reconnaissance que j'existe.
Ouais. Merci pour tout ça.
Avec plaisir.
Si je peux finir, parce que c'était important là pour moi ce soir. Lauriane, peux-tu nous conseiller un livre ?
Ah ouais, t'es comme ça, toi.
Ça, c'est une super idée.
Alors, tu sais quoi ? Je vais te conseiller un livre que j'ai pas lu. Ça, c'est fort, quand même. Si, je vais te conseiller celui que j'ai mis en haut de ma liste au Père Noël, qui s'appelle « Veiller sur elle » de Jean-Baptiste Andréa aux éditions de l'Iconoclaste, qui a reçu le prix Goncourt 2023, parce que j'adore Jean-Baptiste Andréa, et même si je n'ai pas encore lu de son dernier ouvrage, je suis sûre qu'il est sublime. J'adore les éditions L'Iconoclaste, qui ont un parcours sur la littérature contemporaine française qui est vraiment assez chouette, et qui défend des écritures comme ça, qui à la fois racontent quelque chose sur nous, notre société, mais avec beaucoup de sensibilité, de décalage, de non-complaisance. Alors j'espère qu'ils ne vont pas m'entendre, parce que ça se trouve, ils vont dire elle dit n'importe quoi sur l'iconoclaste. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les perçois et que je les percevais déjà quand j'étais libraire. Voilà, donc je t'ai fait un conseil de lecture que je n'ai pas lu. Ça, c'est fort.
Mais merci beaucoup. J'espère que vous avez bien entendu le nom du livre.
Jean-Baptiste Andréa, Veiller sur elle, aux éditions de l'iconoclaste.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tour de table des conseils lecture?
Allez-y, parce que j'en prends volontiers.
Bah moi, parce que j'avais envie... En fait, j'ai proposé ça parce que j'avais envie de le dire. Moi, le livre qui m'a marqué, mais je pense qu'il a été quand même beaucoup lu, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett, qui est pour beaucoup de personnes, et moi, ça me l'a fait aussi un peu une claque lecture. Donc, c'est un gros pavé, hein, je crois que c'est à peu près 1000 pages, mais c'est vraiment super, super.
Moi, je peux vous en conseiller un aussi. Alors, je n'ai plus le nom de l'auteur, là, je suis en train de le chercher. Ce n'est pas du tout ni un roman, c'est un livre de sociaux. Vous en faites ce que vous voulez.
On prend aussi.
C'est Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle. Voilà, c'est une étude qui a été faite sur une ville proche de Clermont-Ferrand. Voilà. Et il y a tout un travail sur les trajectoires personnelles, professionnelles des acteurs qui ont participé à l'évolution de cette petite bourgeoisie culturelle et comment aujourd'hui elle est en train de décliner. Voilà.
C'est écrit par Élie Guéraud.
Merci.
Je viens de regarder.
Léa. Moi, comme livre, c'est plus un roman graphique qui est sur la Loire de, que je ne me trompe pas, Étienne Davoudeau. Voilà. Qui a fait donc tout un roman graphique sur notre Loire et l'histoire, je la trouve assez intrigante.
Ouais, faut pas trop en dire. Le personnage principal, c'est peut-être la Loire, mais en même temps, il y a un autre personnage qui est vraiment fou dans cette histoire. Ouais. Et en plus, je rejoins Léa, reconseille lecture, il faut lire Loire de Davoudeau. Et il y a une chouette exposition de ces planches à la bibliothèque Abbé Grégoire qui a été installée lors de BD Boom et qui encore, je ne sais plus jusqu'à quand.
Je sais plus.
Peut-être fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mm. En plus, c'est beau d'aller voir ces aquarelles.
Oui, je trouve que les planches sont vraiment magnifiques et en réel, effectivement, on les voit à la bibliothèque. Voilà.
Merci pour cette idée, Virginie. Je crois qu'on va faire ça chaque émission. C'est super.
Je reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Merci.
On va se quitter sur une chanson de Mina qui s'appelle Nessuno. On écoute.
Educazione!